Et maintenant, un bon boîte de casse.
Et bonjour à toutes et tous. En compagnie de Martin Bouchard, nous allons continuer à faire prospérer notre petit village médiéval. Bonjour Martin.
Bonjour Nicolas.
Alors, le monde sans fin, c'est un jeu qui est une suite, mais sans l'aide, puisque c'est un jeu en stand-alone, hein, on n'est pas du tout dans une extension. C'est la suite de l'évolution de l'histoire des piliers de la Terre. Donc, piliers de la Terre, construction de cathédrale, adaptation du roman de Ken Follett, et maintenant on est dans un monde sans fin. Maintenant la cathédrale est construite, donc il va se passer d'autres choses.
Oui, donc la cathédrale est construite, on se trouve à être 200 ans plus tard avec les descendants de tous les personnages qui ont évolué dans les piliers de la Terre, et on est toujours à Kingsbridge, parce que le village de Kingsbridge est il a évolué, mais présentement, il y a besoin un peu de rénovation parce que la ville est en train de subir plein de changements. Alors, les joueurs vont être appelés à contribuer à ces différentes rénovations et constructions-là. Puis, vont recevoir le même système que dans les piliers de la Terre, vont recevoir des points de victoire pour leur contribution.
Alors le fil rouge, bon, c'est un jeu d'optimisation. Il y a des achats de ressources, il y a des actions qui vont être faites avec ces ressources-là. Le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points sur une piste de points qui est autour du plateau. Mais il y a quand même des mécanismes assez innovants qui font que un monde sans fin reste intéressant. Ça n'est pas une redite du pilier de la Terre.
Oui, pas du tout. Un des petits mécanismes qu'on a trouvé super intéressant, c'est celui de la carte événement. À chaque tour, en fait, ça se passe en quatre phases, donc par période de temps, là, si vous voulez. Il y a quatre périodes, et dans chaque période, on va jouer six tours. Il y a six tours. Pendant les six tours, chaque joueur va jouer. Lorsque c'est son tour à jouer, le joueur va justement piocher la première carte événement et va la placer selon ce qui semble l'avantager le plus en donnant des ressources à ses adversaires.
Sachant que l'emplacement où on va placer cette carte, c'est une case carrée. La carte est carrée et comme on joue à quatre joueurs, chaque coin va être dirigé vers un des joueurs. Et donc le joueur qui est le premier joueur, c'est celui qui prend la carte, va l'orienter de façon à peut-être s'avantager lui-même, peut-être moins avantager les joueurs et en tout cas faire avancer le jeu de cette manière-là. Donc il y a un certain contrôle qui s'installe là-dessus.
Oui, tout à fait. Et ce petit système-là, il est relié à un marqueur de faveur qui évolue sur une partie du plateau de jeu. Et cette carte-là va aussi indiquer de combien de cases le marqueur de faveur va avancer. C'est une faveur supplémentaire que le joueur dans ses tours va recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il ne fait pas avancer ce petit marqueur-là, il n'y aura pas de faveur supplémentaire. Donc, c'est à lui à voir si la faveur supplémentaire est vraiment intéressante par rapport à la ressource qu'il aimerait obtenir.
Oui, donc il y a vraiment beaucoup plus d'implications qui se passent.
C'est ça, les deux sont interreliés.
Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est encore il y a plus de choix cornéliens qu'avant. Alors, le matériel de jeu, un plateau de jeu qui est évidemment illustré par Michael Menzel, qui avait aussi fait le duel des bâtisseurs, qui était le jeu à deux intermédiaire. On a 12 cartes actions en main pendant les phases de jeu, et à chaque tour de jeu, on va choisir une action, et aussi on va défausser une carte de sa main. Donc on va continuellement devoir se séparer d'une carte et jouer une carte, et donc le jeu va vraiment être différent à chaque fois.
Oui, tout à fait. Alors c'est ça, à chaque tour, les joueurs dans l'ordre du tour vont devoir choisir une de leurs cartes, défausser l'autre, et plus ça va aller, plus leurs choix vont être restreints et vont peut-être regretter justement une carte qu'ils ont défaussée facilement au début de leur tour d'avant, puis maintenant elle est plus disponible.
Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire? Donc, évidemment, il y a le côté ressources, etc. Le côté ressources, utilisation des ressources, il y a des bâtiments qui vont apparaître. On peut avoir quelques exemples d'activités que les joueurs vont pouvoir faire.
En fait, les bâtiments vont apparaître avec, justement, les cartes événements. Donc, c'est ces cartes-là qui vont faire apparaître différents bâtiments sur le plateau de jeu. dont on va devoir participer à la construction. Nos cartes actions, évidemment, nous permettent d'aller jouer sur ces bâtiments-là, d'aller justement contribuer, nous permettent aussi d'aller chercher des ressources, nous permettent d'aller construire des petites maisons sur le plateau de jeu qui vont nous permettre aussi, elles aussi, de recevoir des ressources. Un truc intéressant, c'est que le jeu est... il y a quatre époques tout à l'heure. Après la deuxième époque, il y a une déconstruction qui entre en jeu, qui est le clocher de l'église. Bon, encore une fois, les joueurs... de la cathédrale. Les joueurs vont être appelés à contribuer à ce clocher-là. Mais aussi, autre truc, c'est que la peste va apparaître sur le plateau de jeu. La peste va faire des ravages et les joueurs vont devoir accumuler des connaissances médicales pour être capables de justement aller soigner les différents malades et vont recevoir des points de victoire selon ce qu'ils vont faire.
Il y a un côté légèrement coopératif dans l'histoire. On peut pas dire coopératif, il y aura qu'un seul gagnant, mais apparemment il faut contribuer à l'évolution de la ville. Il faut apprendre à soigner les autres. Est-ce qu'on va soigner les adversaires?
Non, on va soigner. En fait, c'est posé sous forme de jetons sur le plateau de jeu. Et on voit ici tout un secteur avec des habitations. Les jetons vont être placés ici et la carte événement qui va être tirée va indiquer quel malade on doit aller soigner ce tour-là. Et il faut posséder un certain nombre de connaissances médicales pour être capable d'aller les soigner. Donc, si on a suffisamment, on va voir... faire l'action avec une de nos 12 cartes dont je parlais tout à l'heure, aller soigner ce malade-là pour récolter les points de victoire.
Okay. Alors, évidemment, la peste arrive, il y a des choses à construire, on va peut-être perdre de l'argent, et comme dans tout bon pilier de la terre, enfin, de ce genre-là, il y a évidemment un moment en fin de phase où on doit payer des taxes.
Oui. Alors, on se rappelle justement le dé impôt dans les piliers de la terre. Maintenant, dans un monde sans fin. Maintenant, oui, dans un monde sans fin, c'est pire parce que les contributions. Bon, il y a toujours l'impôt. Il faut assurer la piété, donc faire. On le voit là-dessus. Et faut aussi nourrir tout son peuple. Alors, il y a des lourdes conséquences à ne pas le faire. Et si on le fait pas, on perd automatiquement un certain nombre de points de victoire. Ouais. Et en plus, on va avoir une pénalité sur le tour suivant. faut faire attention avec les pénalités parce que si on les accumule, les unes combinées aux autres, ça peut être très dévastateur.
Ouais. Quand est-ce que le jeu se termine?
Le jeu se termine à la fin de la quatrième période, donc les six tours de la quatrième période. Ouais. À la fin de cette période-là, les joueurs vont devoir encore une fois payer des impôts, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'ils seront pas capables de payer va être déduit en double en points de victoire. Donc, c'est encore plus méchant au dernier tour que ce l'était pendant la partie. Donc, il faut faire super attention.
Ce qui ressort ici, c'est que c'est pas une suite, c'est un autre jeu basé sur le même thème, mais qui est quand même beaucoup plus complexe que les piliers de la Terre.
Plus complexe, je ne sais pas. Moi, en fait, je trouve que les deux ont certains mécanismes complexes, d'autres plutôt faciles. Donc, c'est difficile de dire qu'un est plus complexe que l'autre, mais les deux sont très différents. Un de l'autre. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est une suite qui est super intéressante parce qu'il y a plein de petits mécanismes dans le jeu qui vont chercher tout l'intérêt, dont le mécanisme central de carte et ceux des chemins de la peste qui arrivent, etc., etc. Puis, encore une fois, un point important, c'est que, comme c'est fait par la même équipe qui a fait toute la série des piliers de la Terre jusqu'à maintenant, c'est très, très relié au roman. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux romans, qui ont lu, etc., vont vraiment retrouver tout l'univers et les personnages qui sont dans le roman.
Donc, effectivement, c'est Michael Rinick et Stefan Stadler qui sont là depuis le début, en même temps que Michael Menzel, qui a fait effectivement un boulot exceptionnel, comme d'habitude.
Oui, tout à fait.
Voilà. Merci, Martin.
Merci.
Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.